Moi, je voulais juste parler du tout début. Comment ça a commencé, qui s'est retrouvé et...
Bah écoute, je vais prendre la parole et puis Stan aussi, parce que nous on était les deux on était là les deux au début de l'aventure.
Et de fondateurs en quelque sorte.
Ouais, bah en fait on s'est rencontrés au départ à 4 au lycée. On était 4 quatre camarades de lycée. Et puis entre autres choses, on s'est mis à faire de la musique parce que Stan avait des frangins qui avaient des instruments, qui avaient fait un groupe avant, et puis il y avait des instruments qui traînaient, qui n'utilisaient plus trop dans ce qui était ce pouvait être une salle de répète. Donc on a commencé tout bêtement à faire des reprises. Moi j'écrivais déjà des chansons pour moi, mais voilà, n'étant pas musicien, je les avais jamais mis en musique. Et puis on a commencé à faire des reprises avec comme en ligne de mire la fête de la musique. C'était le seul concert qui était prévu, puisqu'on n'était pas en fait ça vraiment amateur, et puis on n'avait aucune velléité au départ de faire ça sérieusement. Et puis première fête de la musique, après c'était en 93, donc tu vois ça fait longtemps. Et puis ensuite on a continué comme petit à petit on a commencé à jouer dans les bars à Lille. On faisait de plus en plus de nos chansons, on osait entre deux reprises faire nos chansons. Et puis ça a continué comme ça pendant un moment, mais vraiment en amateur. Et puis de plus en plus, ça s'est professionnalisé jusqu'au moment où on est arrivé à un statut quasiment semi-professionnel, puisqu'on commençait à gagner de l'argent avec ça. Parce que le bouche à oreille fonctionnant bien, il y avait de plus en plus de monde au concert, et puis des programmateurs de la région qui nous ont fait confiance. Et puis on a remporté plusieurs tremplins à l'époque. Bon, voilà, jusqu'à fin 98-99, on commençait déjà à faire ça, à avoir un petit nom sur la métropole lilloise. Et puis on a enregistré là un premier album qui était une démo en fait, enfin qui s'est avéré être une démo par la suite, qui nous a bien aidé à démarcher. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et en 2003, on a décidé d'arrêter nos boulots. On avait commencé à bosser, hein, on avait fini nos études, commencé à bosser. On s'est lancé là-dedans il y a 5 ans. Quoi.
Alors, juste revenir en arrière, au moment où vous avez commencé, il y a plein de gens qui vous demandaient pourquoi vous ne changiez pas de nom.
Ouais, effectivement. Au départ, on avait choisi ce nom parce qu'on s'appelait comme ça entre nous au lycée, par autodérision, par... Ça correspondait aussi à un côté un peu... Bah, on aimait bien se moquer de nous-mêmes, on aimait bien...
C'est sûr qu'au lycée, ça détonnait, parce que... Enfin, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais... quand on y était, il y avait des groupes très marqués qui se prenaient assez fortement au sérieux. Donc, il y en avait qui se prenaient pour des poètes maudits, et il y en avait qui essayaient de faire les beaux gosses, un peu musclés et tout. Et nous, on trouvait ça... Déjà, à l'époque, on trouvait ça grotesque. Mais on se trouvait nous-mêmes aussi pas plus sexy, quoi. Simplement, nous, on n'avait pas peur de rigoler... effectivement de nous-mêmes, mais des autres aussi. Et du coup, plutôt que de s'appeler... je ne sais pas si c'est nous qui nous sommes auto-baptisés les blaireaux ou si c'est les autres qui nous baptisaient de la sorte.
Au début, on s'appelait les blaireaux entre nous. Au tout début, quand on a parlé de l'éventualité de faire un groupe de musique, on s'était appelé les BBB. C'était le Blues Blaireaux Band. Sauf que le truc, c'est qu'on ne fait pas du tout de blues.
Et qu'on chantait en français.
Donc ça avait vraiment aucun sens. Et petit à petit, c'était les blaireaux, oui, parce qu'on était connus comme ça aussi pour être ce groupe.
Puis après, on trouvait que ça. Comme dans notre spectacle, il y a pas mal d'humour et d'autodérision, on s'est dit que finalement, ça collait pas si mal.
Ouais, c'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question, parce qu'on s'est jamais, pendant très longtemps, on n'a jamais imaginé en faire notre boulot un jour. Donc, c'était pas une question qui se posait, quoi. Mais si les gens nous posaient la question à la fin, c'est parce que déjà, à l'époque, c'était plus sérieux que le nom pouvait le laisser entendre. C'est-à-dire que les textes étaient quand même... un peu plus recherché que la moyenne, et nos références, si tu veux, étaient plus du côté de la chanson que du côté du rock alternatif ou ouais, ou du ska punk, ou des choses comme ça, quoi. Bon, c'était, nous, quand on faisait des reprises, c'était, c'était Higelin, c'était Kiefen, c'était, c'était Dutron, enfin voilà, c'était plus des choses comme ça.
Brel, un peu aussi.
Ouais. Donc voilà, c'est. Il y a. Alors du coup, ouais, on a, quand on a fait le premier album, on avait remporté un tremplin en, pour gagner. Pour, le prix, c'était une semaine d'enregistrement en studio. Donc on a appelé du coup l'album Pourquoi vous changez pas de nom.
La première maquette.
La deuxième, le premier. Non, parce qu'il y avait eu cette maquette qui s'appelait vraiment Les Blaireaux en concert. Et puis après ce deuxième album, bon, qui était vraiment un truc là aussi fait à l'arrache, bon, ça s'entend, quoi. C'est pas, le premier album un peu vraiment professionnel, tout ça, c'est Le Sens du Poil. Qui là a vraiment cartonné pour ce qu'on était, quoi, c'est-à-dire qui s'est très bien vendu, il y a des titres qui ont bien marché, tout ça, et c'est un peu ça qui nous a lancé, quoi.
Donc moi je veux revenir un peu sur vos compositions. Donc en général, c'est vraiment des petites histoires qui sont plutôt amusantes, et en fait. Pourquoi est-ce que c'est toujours l'humour qui prévalue, enfin qui, pas toujours, mais en général qui prévalue dans vos chansons? C'est par habitude des délires au lycée, du coup, ou,
Écoute, moi, je me souviens très bien de ce qui m'a donné envie de faire ça. Hein. C'est quand j'ai vu les VRP en concert pour la première fois, et Joe Butagaz et ses Brûleurs, qui m'ont inconnu, qui avait un groupe du Nord-Pas-de-Calais qui faisait beaucoup d'humour sur scène et de mise en scène aussi. Et moi, ce qui m'a plu vraiment et ce qui m'a donné envie de faire ça, c'était réussir à faire rire avec, comme tu dis, des petites histoires et puis de la mise en scène. Donc tout est parti de là. Donc c'est vrai que le truc de base, ça part de là.
C'était faire rire et étonner, surprendre aussi.
Ouais.
Parce que autant les VRP que Joe Butagaz, effectivement, toutes les 2-3 minutes, il se passait un truc vraiment qui ramenait tout le monde vers une autre direction, ouais. qui était une surprise. Et c'est ce qu'on essaye aussi de retrouver.
Et ça, donc, c'est vrai que ça a toujours été. Maintenant, avec le temps, ce qui a changé, c'est qu'on a osé assumer des chansons plus calmes, plus tristes. Ce qu'on faisait pas forcément au début, parce que c'est toujours dur quand tu commences. T'as tendance à penser que les chansons, quand il y a moins de retour public, que ce soit au niveau des applaudissements ou au niveau des rires, t'as tendance à te dire, oh là là, est-ce que je les embête pas, est-ce que ça marche, donc t'as tendance à privilégier les choses plus efficaces, enfin, à première vue plus efficaces. Ça met du temps de réussir à assumer certaines choses plus calmes, ouais.
Et donc là, sur votre dernier album, justement, vous faites plus la transposition vers du plus calme.
Eh bien, disons que sur le dernier album, on n'a pas eu peur de défendre le côté chanson, en fait, vraiment, quoi. Tu vois.
Et donc, c'est du coup, maintenant, après le feedback sur cet album, vous pensez continuer dans cette direction-là, ou peut-être plus revenir sur l'humour, ou...
Je crois qu'on va continuer à garder un mélange, hein, parce que c'est vraiment ça qui nous plaît, autant sur scène que sur disque, puisque sur scène on aime bien avoir des souvent un départ relativement sur les chapeaux de roue, ensuite emmener tout le monde dans une autre direction avec une chanson beaucoup plus calme, repartir à fond, et du coup naturellement sur le disque c'est ça qu'on a envie de faire aussi. On a envie de répondre à toutes les différentes facettes qu'on a. Alors c'est sûr qu'il y a, je pense, plus de chansons un peu humoristiques d'une manière ou d'une autre, parce que ça peut être humoristique par ça peut être, c'est un métier à risque, hein, journaliste, ça peut être humoristique par le sujet même de la chanson. Ou alors le sujet de base peut être absolument banal ou voire sérieux, et que ce soit la façon d'en parler qui soit humoristique, ou ça peut être simplement une chanson qui démarre normalement et qui prend brutalement un tournant, un virage surréaliste ou humoristique. Donc mais oui, dans le prochain disque qu'on va faire, il y a un peu des deux, ouais.
Donc il y a déjà un prochain disque de prévu.
Oui, tout à fait, qui va sortir en juin d'ailleurs.
En juin.
Ah ouais, ça fait très peu de temps après mais l'album live qui a annoncé en janvier.
Voilà.
Ouais. Voilà. J'ai vu que vous avez fait une belle surprise il y a deux jours en annonçant un album live.
Tout à fait.
Je me suis dit, génial, ça tombe bien.
L'idée, c'est live en janvier et studio en juin.
D'accord. Et c'est... Alors pourquoi ce live en particulier? C'est pour faire une suite avec le premier?
Bah, l'idée, c'était qu'il y a beaucoup de gens qui quand ils vont voir un spectacle, ont envie de retrouver ce qu'ils ont vu sur scène. Et puis, c'est pas évident de le transcrire en studio. Bon, et l'idée, c'est aussi d'avoir une trace de ce spectacle-là, qui est quand même qui a quand même très bien marché, qui marche toujours très bien, et qui pour nous aussi, c'est avoir une trace de ça. Et puis, je pense pour tous les gens qui sont venus nous voir depuis deux ans.
Parce que c'est vrai qu'en plus, on a tendance à tout le temps à faire évoluer le spectacle, et donc insensiblement,
voilà,
six mois finalement, il a pas mal changé. Et là, entre la première mouture de ce spectacle et maintenant, il y a quasiment un an et demi, deux ans qui se sont écoulés. Il y a eu tout un tas de choses qui ont changé. Et effectivement, nous, on a envie d'en garder une trace, mais apparemment, la demande vient aussi des gens qui ont envie de retrouver exactement même certains speeches. Alors, en fait, nos speeches changent à chaque fois, donc ce sera le speech de ce soir-là, mais au moins, ils ont une idée de ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Okay.
Oui, juste pour l'écriture des chansons, je voudrais savoir comment ça se passe.
Eh ben, écoute, en général, de différentes manières. Moi, je ramène souvent la plupart des textes. Soit j'ai une idée de mélodie en tête, ou alors une idée d'ambiance. Ou alors il peut y avoir simplement un texte qui va coller sur une mélodie que ramène quelqu'un d'autre. Ça peut aussi être une musique qu'on trouve ensemble. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois les arrangements, donc tout ce qui va entourer la chanson, ça se fait ensemble.
Et l'écriture, c'est plutôt tout seul dans son coin, ou c'est dans la rue que ça vient?
L'écriture, ça peut être que moi je suis assez perfectionniste, alors j'aime bien retravailler les textes, retrouver vraiment le mot juste, le truc qui va faire mouche. Enfin bon, après voilà, les autres écoutent et puis on trouve aussi parfois des trucs ensemble, quoi. Après, il y a des chansons qui se prêtent plus à ce qu'on cherche des choses ensemble aussi.
Et juste pour revenir du coup sur le live, elles sont plutôt écrites pour le live, les chansons, pour le concert, pour le...
Ouais, ça c'est intéressant, parce que oui, moi je les écris, oui, clairement, en ayant en tête ce que ça peut donner en concert. Voilà. Ouais, c'est vrai que par rapport à d'autres gens qui auront une démarche plus musicale, peut-être en pensant plus à ce qu'ils veulent, comment ils vont mettre cette chanson comment ils vont la sublimer en studio. Moi, je pense déjà, il y a pas mal de personnages, par exemple, dans les chansons, parce que j'imagine déjà plusieurs personnes qui vont dire, qui vont prendre la parole, qui vont.
Non, moi, j'imagine moins la scène, effectivement, au départ, quoi. Mais malgré tout. Malgré tout, c'est pareil, même quand on prend le baron, finalement, il y a aussi plein de personnages, donc ça s'y prête, quoi. Mais c'est vrai que j'ai moins la projection de la scène en tête au départ, mais je pense que c'est inhérent à la façon d'écrire aussi. Comme l'idée, c'est de développer des images, forcément, on peut les porter plus facilement sur scène. Mais moi, je n'y pense pas au départ, c'est vrai.
C'est tout un processus qui se construit.
Et puis c'est très personnel, en fait, l'écriture, à partir du moment où ça a un sens raisonnable, enfin, je sais pas, c'est pas juste intuitif, c'est pas comme de la musique, quoi. Et je pense que du coup, c'est un peu obligé que ce soit une seule personne qui s'y colle et qui vraiment cherche sa propre façon d'exprimer une idée. C'est une pensée quand même, enfin, même si c'est rigolo ou tout ce que tu veux, c'est quand même une pensée, donc c'est assez personnel en
soi. Oui, d'autant plus qu'après, en ce qui me concerne, moi je vais les chanter, et je vais les chanter pas une fois, je vais les chanter... 100 fois, 200 fois, 300 fois. Donc ça aussi, c'est important de savoir que tu vas pas être lassé par un texte. Et moi, des fois, je me rends compte, tu vois, j'écris un truc et puis je me rends compte que ça va me lasser. Ou alors, je vais écrire quelque chose et puis je suis pas tout à fait satisfait. Alors, il y a eu un moment où peut-être que ça passait et puis je faisais au tout début, je laissais passer. Et maintenant, je sais que ça me gêne, quoi, de devoir chanter un truc que j'assume pas forcément. Ça peut être un mot, une phrase, hein. Donc du coup, je cherche vraiment pour que je l'assume, quoi.
Perfectionner jusqu'au bout, quoi.
Ouais. Enfin, en tout cas pour ce qui concerne l'écriture, oui, parce que c'est aussi ce que j'aime, enfin comme style de musique, ce que je défends et que je suis assez, je pense, difficile en termes de texte, quoi. Et encore une fois, pour moi, un texte bien écrit, c'est pas forcément un texte super poétique ou super, c'est un texte qui va faire mouche dans certains styles. Alors après, il y a des gens qui sont très poétiques et ça va marcher, et puis d'autres c'est poétique mais ça tombe à l'eau, ça tombe à plat. Pareil, il y a des gens qui vont écrire très simple mais bon, ils vont pas réussir à créer quelque chose avec cette simplicité, et il y en a d'autres au contraire où ça marche. Bon.
Alors moi je voudrais changer un peu de sujet. J'ai vu que vous êtes parti à la conquête du net entre guillemets vraiment très récemment, parce que vous avez ouvert un compte Facebook au mois de juin.
Ouais.
Donc déjà ce compte là, ça résulte de quoi? C'était une demande de vos fans?
C'est encore plus incroyable ce compte Facebook.
On a un site web depuis très très longtemps.
Oui, ça c'est vrai. Et en plus, un site web qui est assez fréquenté et avec une très grosse mailing list depuis très longtemps. En fait, c'est plus sur les.
Quand on a commencé, c'était même où vous avez un site web, vous. Tellement c'était longtemps.
À cette époque-là, je ne suivais pas. Donc.
Après, pour tout ce qui est. Nouveau média web, MySpace, ça date un peu, mais on s'y est mis il y a quand même un bout de temps, quoi, il y a 5 ans. Facebook, on a mis un peu plus de temps à se pencher là-dessus. C'est difficile parce que ça demande vraiment une attention soutenue si on veut que les gens viennent le fréquenter. On ne pense pas notre contenu artistique, on ne le pense pas pour le web. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément de choses à raconter sur le web, à part de temps en temps. On peut poster un article, on peut poster des trucs un peu rigolos, mais on n'a pas de contenu qui est pensé pour le web au départ. Nous, notre truc, c'est la scène. Voilà. Donc là, on essaye de se pencher là-dessus, parce qu'en plus, c'est vrai que finalement, ça pourrait nous correspondre. On pourrait penser à des vidéos qui nous correspondent, qui ne soient pas forcément que des clips. Enfin, voilà. Effectivement, on se penche un peu là-dessus, et sur Facebook, depuis quelques mois. Et alors, ce n'est pas une demande des fans au départ, c'est un fan lui-même qui l'a créé et qui nous a nommé administrateur après. Voilà.
Nous a forcé la main. Bah nous on se disait bon, on a déjà un site, on a déjà un MySpace qui marche tous les deux bien depuis longtemps. Mais bon.
Mais c'est une erreur. Hein. En fait, il faut en prendre son parti. C'est des choses qui demandent de l'attention et il faut.
Ça demande beaucoup de. Moi je vois des artistes vraiment pas connus et qui passent beaucoup de temps. Ça s'explique aussi par le temps qu'ils ont pour le passer. C'est-à-dire que nous, tu prends les répètes, tu prends la création des nouvelles chansons, tu prends les tournées. C'est vrai qu'on n'a pas le temps forcément de passer.
Parce qu'aussi, on est un groupe intermédiaire, parce que les groupes, effectivement, très très connus, de toute façon.
Oui, on n'a plus besoin de ça, quelqu'un s'en occupe.
Qui sont payés pour ça. Les groupes pas connus, effectivement, ils ont quand même du temps. Et puis. Bien sûr qu'ils le font.
Et puis ils sont plus jeunes, ils sont plus dans ce.
Nous,
ils ont plus vécu avec ça aussi.
On est entre les deux. On a à cœur de le faire nous-mêmes, d'une part, parce qu'on va pas payer quelqu'un pour le faire, mais en plus, par sincérité. Quoi,
ouais, c'est pas sympa répondre quelqu'un d'extérieur au groupe qui réponde aux fans.
Tant qu'on peut le faire nous-mêmes, on le fait nous-mêmes. Et puis il y a des gens, sincèrement, qui sont avec qui il y a des petits échanges réels, quoi. Et qu'on retrouve après en chair et en os à la fin des concerts, c'est rigolo, on les reconnaît pas toujours d'ailleurs, puisque les photos sont pas toujours complètement naturelles. Enfin, et toujours est-il que voilà, effectivement, on fait ce qu'on veut, quoi.
Ok. Et donc, je reviens un petit peu sur le MySpace du coup. Donc, sur votre MySpace, on peut voir que quelques extraits de chansons.
Oui.
Et alors, c'est. Est-ce que vous avez l'impression que ça serait encourager un petit peu la copie de mettre vos morceaux en entier? C'est juste pour intriguer un peu et ramener les.
Ouais, l'intrigue, ouais. Après, si tu veux le trouver, c'est tellement facile.
De toute façon, oui.
Vos morceaux, c'est très très dur de les trouver sur Internet.
Ah bon?
Ah, c'est super dur.
J'y ai passé quelques heures.
Effectivement,
en écoute, tu peux.
Je pense qu'au fur et à mesure de la pub. Au fur et à mesure du temps, je pense qu'on va de plus en plus les diffuser.
Est-ce que du coup, vous êtes.
Mais
pas,
après, au départ, sur le dernier album, par exemple, on a voulu passer que des extraits, vraiment, pour que les gens aient la curiosité d'aller chercher ailleurs, de vraiment se démener. Aujourd'hui, je pense que ne serait-ce que 2 ans plus tard, faire ça, ce serait idiot, parce que plus personne consomme la musique comme ça. Je dis consomme parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein, c'est pas écoute. Et du coup, je pense qu'au prochain album, on pourra se permettre de mettre des chansons en entier. Mais c'est un bon débat, quoi.
Je peux faire la traduction, quoi.
Il y a aussi le fait que nos premiers albums étaient autoproduits, mais depuis qu'on travaille avec une maison de disques qui continue à survivre par les temps qui courent, ce qui n'est pas évident, ça, c'est pas forcément complètement évident de dire merci de produire notre disque, au fait on va mettre l'album entier en écoute intégrale sur le site demain, parce que bon, c'est quand même ce que les gens veulent, c'est quand même difficile.
Oui, bien sûr. Alors après, maintenant, il y a aussi des nouveaux fonctionnements avec des sites comme, comme Deezer,
bien
comme
sûr, ouais.
Jibois, tout ça. Et c'est pareil, c'est des endroits où on ne vous trouve pas forcément.
En fait, sur
Spotify.
Ouais, on trouve le dernier album sur Deezer. En fait, là, c'est typiquement la maison de disques qui deal des choses avec ces sites-là. Ça serait idiot pour eux de relâcher absolument toutes les chansons des blaireaux. Sans aucune contrepartie, parce qu'ils récupèrent rien derrière. Enfin, l'argent que tu récupères derrière est tellement ridicule, enfin, le montant est tellement ridicule qu'il faut le faire pour que ce soit utile à tous. Et du coup, je pense qu'effectivement, au fur et à mesure du temps, il y aura des choses qui vont se passer. Je pense qu'avec le prochain album, il y aura forcément d'autres chansons plus anciennes qui vont aussi être disponibles sur Spotify, sur Deezer, sur Jibois, etc., etc.
J'en connais un. Je peux le citer.
Non.
Bah, pourquoi pas. De toute façon, moi, je veux dire, les gens qui ont envie d'acheter un disque, ils achètent le disque, quoi. Je veux dire, c'est tellement rare aujourd'hui d'acheter un disque. Bon, moi, ça me choque pas que les gens aillent. Je suis plutôt content si les gens vont découvrir les blaireaux sur internet, quoi. Franchement,
ce qui est compliqué, c'est à la fois qu'il faut qu'on soit respectueux avec le travail que fait la maison de disques et pas faire en sorte qu'ils se sentent pas lésés, quoi. Et nous, notre envie d'être diffusé par le plus possible, parce que le principe c'est ça, c'est de faire en sorte que le plus de gens possible au monde et dans l'univers puissent écouter les blaireaux. Donc effectivement, à partir de là, il n'y a aucun souci à relâcher, mais même tout. Tu vois, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse continuer à se produire sur scène pour nous.
Bon, après, moi je suis peut-être un cas particulier, mais moi j'ai jamais téléchargé illégalement quoi que ce soit.
Dans ce cas-là, vous êtes un saint.
Ni vidéo, ni musique, mais par contre quand j'avais entre 18 et 25 ans, pour moi c'était inimaginable d'acheter un logiciel, que ce soit Word ou un jeu. Pour moi c'était évident que de toute façon j'allais choper, craquer chez quelqu'un, et du coup j'imagine bien ce qui se passe dans la tête de tout le monde. Je l'ai vécu, pour moi je me posais même pas la question. Je veux dire, aller dans un magasin pour acheter Word, c'était quelque chose, mais ça ne me venait même pas à l'esprit. Et du coup, je comprends que les gens aient ça en tête pour la musique, pour les films. Mais moi, je ne le fais pas pour 2 raisons. D'une part, parce que généralement, la qualité en fait de ce qu'on retrouve est mauvaise. Et donc, moi, ça me plaît pas, parce que je suis audiophile et j'aime bien entendre quelque chose de correct. Et en plus je me dis, voilà, le mec il s'est fait chier à choisir un bon studio, des bons micros, il a passé des heures à trouver le bon enregistrement. Alors si c'est pour l'écouter en MP3 dégradé sur un haut-parleur d'un téléphone portable ou des enceintes d'ordi, franchement je vois pas l'intérêt, enfin, voilà. Mais j'ai conscience d'être en minorité et je respecte tout à fait. Je voulais simplement attirer l'attention des auditeurs sur le fait que c'est pas forcément complètement normal, voilà. juste une voix le dit de temps en temps. Voilà. C'est comme quand on fume, si on est entouré que de fumeurs, on ne se rend pas compte que potentiellement c'est mauvais pour la santé. Et puis de temps en temps, s'il y en a un qui le rappelle, ça peut faire parfois du bien.
Merci.
Okay. Et donc, finalement, je voulais poser une dernière question qui est déjà partiellement répondue. C'est en mettant plus de morceaux à disposition des internautes, vous ne pensez pas que ça vous aiderait à mieux vous faire connaître pour avoir plus de public en live, justement?
Si, certainement.
Ouais. Ouais. Bah, c'est sûr, mais de toute façon, moi je pense qu'on les peut
y trouver.
Bah, en cherchant bien, il y a plein de sites.
Non, mais effectivement, le principe du web, c'est qu'il ne faut pas chercher. C'est qu'il faut pouvoir y accéder très facilement sans se poser de questions. Tu as un site auquel tu es abonné ou sur lequel tu vas très souvent. Il faut que ce soit le contenu.
Mais ça, c'est effectivement des accords aussi avec le label. Moi, c'est vrai que j'y connais rien. Alors après, c'est vrai que nous, sur les disques qu'on a autoproduits à l'époque, on pourrait le faire. Alors je ne sais pas comment ça se passe.
Oui, il faut juste trouver assez de place.
Assez de place.
Ouais, parce que histoire de qu'il ne soit pas en MP3 trop pourri.
C'est ça aussi l'inconvénient sur MySpace,
pas trop,
par exemple.
Compressé,
sur MySpace, le son n'est pas terrible, optimal, quoi. Donc,
non, mais d'autant plus qu'il y a des chansons sur les albums, que ce soit Le Sens du Poil ou Pas Si Bête, qui valent le coup, à mon avis, d'être mieux connues, plus connues. Donc effectivement, je crois que si... Alors encore une fois, moi je sais pas comment ça se passe, Deezer...
Sur Music Me, on en trouve plus que sur Deezer.
Là, c'est mais plus comment sauvage. Mais tu...
Ça dépend des sites. Il y a des sites qui font attention et qui demandent aux producteurs.
Ouais.
Et il y en a d'autres qui passent outre. Mais Music Me, je sais pas comment ils ont fait.
Bah, je sais pas, mais j'ai vu tous les albums.
J'ai regardé.
Ou une partie.
Il y a une partie où il n'y a que 30 secondes d'écoute et
sa proposition. Sur ce site-là,
ils vont choper à la FNAC. C'est ça qui se passe.
Oui, c'est ça. Ou sur
les et nous, si on décidait en tant que producteur de les mettre.
Il n'y a aucun problème, ils vont les mettre demain. Ils s'en foutent.
Bah, il faut qu'on le fasse. Moi, ça ne me choque pas. Enfin, sur les albums, en tout cas, sur les anciens.
Les plus anciens, de toute façon, c'est évident que.
C'est surtout
oui, pourquoi pas. Notamment, il y en a.
T'as raison sur le fait que le fait de diffuser, ça ramène peut-être du monde. Après, c'est difficile de quantifier ça. On connaît des gens, par exemple, qui sont extrêmement actifs et qui ne tournent pas. Oui. Qui ont beaucoup, beaucoup de clients sur Internet.
Qui ont des millions d'amis.
Oui, je crois que c'est pas... Internet, c'est pas non plus la panacée. Ça remplacera jamais le bouche à oreille. Tu vois, je crois vraiment. C'est-à-dire que... entre un truc le bouche à oreille, c'est quand même quelqu'un qui te dit j'ai été voir les Blaireaux, écoute c'est super, j'ai passé un super moment, vas-y quoi. T'auras beau faire, on le voit hein, les groupes qui même embauchent des gens, des stagiaires pour aller faire du faux, je sais pas comment on appelle ça, de l'ambiançage, de l'ambiancement, du buzz en se faisant passer pour un internaute lambda et puis qui dit faut aller voir ça, c'est génial ça. Bon, ça marche pas. Enfin, tu peux pas mentir aux gens non plus.
Un truc qui est notable, par exemple, c'est que ces gens qui sont très actifs parfois sur la toile, sur leur propre site, sur leur MySpace, sur leur Facebook, ramènent pas forcément du monde. En revanche, quand en dehors d'eux il se passe des choses sur les forums, ça cartonne.
Ouais.
Quand les gens sont responsables du buzz et qu'ils le diffusent partout ailleurs, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Quoi.
Bien sûr.
À ce niveau-là, le genre de site, qui promeut vraiment un artiste avec des gens qui viennent très régulièrement et qui sont habitués à avoir confiance dans le contenu rédactionnel de ce site-là, oui, je pense que les gens qui vont sur ces sites-là vont se déplacer après. Hein. Mais en revanche, l'efficacité du MySpace, par exemple, pour faire venir dans la salle, je pense qu'elle est de l'ordre de 10 personnes pour quelqu'un qui a 800 ou 900 clics par jour. Quoi.
Ouais, mais
c'est 10 personnes.
Et puis, on a aussi un public de plus en plus. On parlait tout à l'heure du fait d'avoir affirmé, en tout cas, notre côté... notre côté, c'est plus qu'un côté, c'est-à-dire affirmer notre filiation à la chanson et c'est un public aussi plus, plus assis, pas tout, dans tous les sens du terme, qui sont pas forcément des cyber...
Les premiers clics qui sont revenus.
Ouais, c'est des gens, ils vont aller sur le site pour voir où est le concert et tout ça, mais ils vont pas passer leur vie sur Internet et ils tomberont pas. C'est plus via le bouche à oreille, via des articles dans la presse, via la radio. Enfin voilà, c'est encore des médias quand même qui sont et qui correspondent plus, je pense, à une partie de notre public, quoi, tu vois.
Tout à fait. Bon, je vais changer un peu de sujet, parce que sinon on va transformer ça en
débat.
Vu que vous nous avez donné la joie de nous annoncer un album pour le mois de juin, du coup j'ai rebondir un peu là-dessus.
Ouais.
Qu'est-ce que vous nous préparez de beau?
Écoute, plein de belles chansons. Là, moi j'ai réécouté avant de partir, j'étais assez content. Je sais pas comment. Alors là, on va l'enregistrer à Bruxelles en janvier, donc comment définir? Il faut. Après, tu as les chansons, là on en est à la période où on a les chansons, il en manque peut-être une ou deux. Après, il faut trouver une cohérence un peu à tout ça. Bah, ça, on va y réfléchir. Et puis, la cohérence, elle est encore une fois dans les textes, dans l'humour, dans le fait que ce soit bien écrit. Musicalement, le côté polyphonique aussi, qu'on essaye de défendre. Voilà, il y aura peut-être un côté un peu plus jazzy que sur les autres albums.
Okay. À force de prendre des cours, on se jazzifie.
D'accord. Personnellement, j'ai fait un peu le tour de mes questions. Je vais revenir un petit peu sur l'album live qui sort donc en janvier.
Oui.
Qu'est-ce qu'il apporte de... Alors pas qu'est-ce qu'il apporte de particulier, est-ce que c'est les nouvelles chansons, mais qu'est-ce que vous voulez mettre en avant un peu dans cet album? Enfin sur ce live en fait.
La façon de porter les chansons sur scène, la façon de les défendre différemment que sur l'album précédent, garder une trace. Les chansons, franchement quand on réécoute, c'est vrai qu'il y a certaines chansons qui n'ont absolument rien à voir avec l'album studio. Quoi. C'est impressionnant.
C'est
une chanson comme Pourquoi j'ai tué ma mère qui fait 2 minutes 10 sur Parade prénuptiale, elle fait... Pourquoi j'ai mangé ma mère, pardon. elle s'étire en longueur, non pas parce que je la joue 4 fois moins vite, c'est surtout qu'on propose,
ça
plein, de trucs, on propose plein de trucs à l'intérieur qui sont vraiment totalement différents. Quoi. Donc oui, c'est toujours sympa de garder une trace de ces concerts où c'est tellement différent de jouer sur scène une chanson.
Et puis les gens, oui, moi j'ai envie aussi que les gens en écoutant ça, ceux qui ne sont jamais venus, aient envie de venir en fait, tout simplement.
Moi c'était juste sur une chanson, on m'a dit vous aviez un humour à la façon des Monty Python.
Ah, c'est possible que ce soit celle-là, justement.
Voilà, c'est celle-ci.
Oui, c'est un côté, il y a un côté un peu absurde, un peu cynique aussi. Ça fait partie des multiples références. De ce qui nous fait rire, nous, déjà entre nous. Donc, en fait, une chanson, c'est simple. Ce qui fait qu'on l'accepte tous, il y a l'écriture, mais il y a aussi, si elle nous fait rire et qu'elle continue à nous faire rire longtemps, c'est gagné, quoi. Tu vois, quand je disais qu'on va la chanter 300, 400, 500 fois, il faut qu'elle continue à nous faire rire. Et moi, c'est encore le cas. Hein. Il y a encore il y a des chansons, L'auberge du chat qui pète, je l'ai chanté, je sais pas. J'ai chanté 1000 fois peut-être dans ma vie. Encore ce soir, je vais la chanter. Il y a des trucs qui vont me faire sourire intérieurement. Quoi.
Là, c'est avec celle-ci que je vous ai découvert.
Ouais, voilà, tu vois.
La boucle est bouclée.
Il y a une chanson aussi qui m'avait bien touché, Pacrax.
Ouais.
Et je voulais savoir d'où est-ce qu'elle venait en fait.
Et ça, c'est une chanson qui vient d'une tournée qu'on a fait en ex-Yougoslavie en 2003. Ouais. Et c'est une chanson qu'a écrite François, qui n'est plus là maintenant parce qu'il a rejoint sa femme qui était mutée à Valence. Donc il est parti l'année dernière, il y a un an et demi. Et donc c'est une chanson, en fait Pakrac c'est une ville dans laquelle on avait joué, dans l'école de musique. Parce qu'on avait, moi j'avais un ami qui y bossait en fait pour l'OSCE, il bossait là-bas. Et donc, il nous avait demandé de faire un détour par cette ville, qui est une toute petite ville, en fait, hein, qui a été complètement ravagée, qui était juste sur la ligne de front entre la Serbie et la Croatie. Et donc, Et donc, ouais, on était au milieu. Enfin, voilà, c'est vrai que ça, c'est impressionnant. Quand
ce qui nous avait vraiment étonné, c'est qu'on était arrivé par Zagreb. Et c'était quand même très longtemps après la guerre. C'était quoi, 9-10 ans après la guerre? 9 ans
C'était 10 ouais, ans, ouais, parce que les accords de Dayton, c'est 95, donc c'est 8 ans. Ouais,
8 ans après la fin de la guerre, il y a plein d'endroits qui étaient reconstruits. Et là, par contre, comme c'était une petite ville, voire un gros village, bon, bah, ils n'avaient pas reçu encore les moyens de réparer. Et donc là, il y avait encore des impacts de balles plein les murs. Mais c'était une ville normale, c'était un petit HLM, un petit pavillon, comme on en voit partout, sauf que là, il y avait encore des éclats d'obus, on voyait encore la marque à travers, à peu près au milieu de la ville, qui était encore toute pétée, donc ça nous a pris par surprise, parce que... Et par contre, on venait jouer dans effectivement l'école de musique qui avait été le premier bâtiment reconstruit grâce à des fonds européens, je crois. Enfin bon, bref, peu importe. Et du coup, c'était vraiment symbolique, quoi. Tous les gosses qui étaient là, qui pour la moitié d'entre eux n'avaient pas connu la guerre, qui étaient frais, joyeux, et puis dans un paysage quand même dévasté, quoi. Donc, c'est pas une émotion feinte, hein. C'est une chanson qui nous parle à tous, quoi.
Moi j'ai un peu fait le tour. Juste, je sais pas si c'est possible d'avoir une petite chanson comme ça à cappella, s'il y a quelque chose qui est possible à faire ou pas.
Sans guitare.
Ou avec une guitare, c'est super délicieux.
La sieste, ouais, on part là-dessus, ou sans guitare. On essaye.
Bah, sinon, est-ce que
on a toutes les voix là, hein, c'est bon. Alex, il va chanter plus
au complet. Ouais, mais oui, il faut juste un œuf. Manger des cajots.
1, 2, 3.
Ranger des cajots en rayon. C'est pas trop notre rayon. On ferait mieux de faire comme les pieds en éventail. Asséchés sur la paille. Comme des vieux savons de Marseille, au bord d'un évier en plein soleil. Garder des péages en été, c'est pas notre tasse de thé. On ferait mieux de faire comme eux, allongé sur le sable, à se dorer le râble, comme des vieux savons de Marseille, au bord d'un évier en plein soleil, comme des vieux savons de Marseille, au bord d'un évier en plein soleil, 10 ans à tailler des lauriers. On a parsu laurier.
Non.
On ferait mieux de faire comme ceux qui pendant qu'on sue se reposent dessus. Comme des vieux savons de Marseille, au bord d'un évier en plein soleil. Comme des vieux savons de Marseille, au bord d'un évier en plein soleil.
La musique nous a tous réunis.
Wow. Avec l'acoustique, c'est marrant, c'est pas mal.
Ouais.
Moi, j'ai chanté extrêmement faux sur deux refrains.
C'est vrai?
C'est bien.
Attention.
Et pour finir, moi, je sais pas si vous avez une question à laquelle vous auriez aimé répondre et qu'on n'a pas posé ce soir.
Non, écoute.
Pas mal de trucs, hein.
Oui, je suis pour le débat un peu sur l'identité nationale.
comment on pourrait être aussi beau, mais...
Non, si effectivement on faisait sauter les petites mamies dans tous les sens. J'ai vu ça dans le journal.
J'ai sauté les mamies dans tous les sens.
Là dans le journal, je sais pas quand c'est paru, mais j'ai fait une interview et puis je vois le titre du truc, c'est même les personnes âgées sautent dans tous les sens.
Merde.
Et
parce qu'en fait, on installe des trampolines si tu veux sur scène, on invite quelques grands-mères. Et...
Alors, bon, une fois de plus, c'est vrai que.
Le
il y a eu une petite malentendue, puisque Non, le enfin, j'ai jamais vu encore de concert où on faisait sauter les petites mamies dans tous les sens. En général, par contre, ce que j'avais dit dans cette interview, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup de personnes âgées aussi qui venaient au concert et qui retrouvaient là enfin, tu vois, la tradition de la chanson avec les frères Jacques, avec Boris Vian, avec des choses comme ça, quoi. Et donc, elles aussi, elles prenaient leurs pieds, de là à sauter dans tous les sens. Je ne sais pas où le journaliste allait chercher ça, mais bon. Donc, je voulais dire aux auditeurs que non, malheureusement, on n'était pas des viagramanes.
Mais viens avec ta grand-mère, elle kiffe. Voilà. Pas.
Mais c'est vrai que.
T'es daron aussi.
Même s'il y a la moitié de la salle, généralement, qui est composée de 25-35 ans, maintenant, depuis quelques années, il y a des cinquantenaires, même des cheveux blancs, il y a des enfants.
On a troqué les dreads contre des cheveux blancs,
ouais.
Des têtes chenues.
Mais c'est sympa de voir maintenant toutes les générations. Enfin, il y en a qui viennent en famille, vraiment, quoi. Il y en a qui nous avaient suivis au début et qui maintenant ont des enfants, qui viennent avec et des fois qui ramènent leurs parents aussi, quoi. C'est sympa.
Ouais. Typiquement, hier, par exemple, il y a une dame qui est venue en disant « ma fille qui est en mission au Sahel m'a dit « Maman, ce soir, il y a les blaireaux, il faut absolument que tu ailles, sinon je ne suis plus ta fille. » Elle est ressortie ravie.
C'est beau.
Et peut-être qu'elle espérait secrètement que sa mère n'y aille pas pour pouvoir être débarrassée.